Vous écoutez France Culture.
Le sens des choses.
Stéphanie Bonvicini.
Jacques Attali.
Le cerveau a des capacités tellement étonnantes qu'aujourd'hui, pratiquement tout le monde en a un.
C'est pas si sûr.
Bonjour, comme chaque samedi, nous sommes très heureux avec Jacques Attali de vous retrouver pour une nouvelle émission du Sens des choses. Au cœur de l'été, avec nos invités, nous prenons le temps de réfléchir aux perspectives ouvertes par les progrès récents des neurosciences et des sciences cognitives. Nous essayons de mieux comprendre celui qui centralise tout, le cerveau. Cet organe infiniment complexe, le plus complexe du corps humain, dirige nos gestes, nos pensées, nos perceptions et nos paroles. Il est le seul maître à bord. Combien de temps le restera-t-il? Qu'est-ce qui pourrait lui faire perdre le contrôle ou le renforcer? L'intelligence artificielle appartient-elle à la science-fiction ou à la science d'action? C'est le thème de cette émission avec notre invité cet après-midi, Laurent Alexandre. Laurent Alexandre, bonjour.
Bonjour.
Vous avez 54 ans et un profil plutôt atypique puisque vous êtes docteur en médecine, chirurgien urologue et parallèlement vous êtes un véritable entrepreneur. Diplômé de Sciences Po, HEC et l'ENA, vous avez fondé en l'an 2000 Doctissimo, le site internet grand public d'information sur la santé que vous avez revendu 8 ans plus tard au groupe Lagardère et aujourd'hui vous présidez la société de séquençage de génome DNA Vision que vous avez créée en Belgique il y a 10 ans. Vous êtes un passionné de génétique et vous vous intéressez, dites-vous, aux bouleversements qu'entraîneront pour l'humanité les progrès de la science, la technomédecine et les biotechnologies, ce que l'on appelle aussi les NBIC, N pour nanotechnologie, B pour biologie, I pour informatique et C pour sciences du cerveau, intelligence artificielle. Et dans votre dernier essai, vous écrivez que l'homme qui vivra 1000 ans est déjà né. C'est un essai qui a un très beau titre, La mort de la mort. Alors je sais que vous êtes un homme d'avenir, mais vous êtes aussi quelqu'un qui n'a pas sa langue dans sa poche. Et j'aimerais commencer par savoir si ce titre, vous l'avez choisi pour qu'il soit évocateur ou provocateur, au sens provoquer des réactions, réveiller les esprits, réveiller les consciences.
Non, c'est ma conviction. Quelqu'un qui naît aujourd'hui n'aura que 86 ans en 2100. Et les nanobiotechnologies à l'horizon de 2100 vont être tellement extraordinaires que l'espérance de vie sera déjà beaucoup plus longue, de quoi atteindre sans doute les années 2200 et ainsi de suite. Il est tout à fait possible que nous soyons l'avant-avant-dernière génération à mourir.
Pour mieux comprendre ce que vous dites, cher Laurent, je crois qu'il faut essayer de partir du triangle que forment la génomique, les sciences de l'information et les neurosciences. Comme nos émissions partent sur les neurosciences, il faut comprendre en quoi la génomique et les sciences de l'information sont deux sciences, sont en quelque sorte les deux premiers étages de la fusée des neurosciences.
Exactement.
Est-ce que vous pourriez nous dire comment, tant ces deux premiers étages vont s'accélérer, vont accélérer leur force dans les 10 ans qui viennent?
La démocratisation de la génomique est en cours, c'est-à-dire lire notre séquençage ADN, c'est-à-dire les 3 milliards d'informations que sont dans notre génome, est de plus en plus facile et de moins en moins coûteux. Le coût est passé de 3 milliards de dollars il y a 10 ans à 1000 dollars et on sera bientôt à 100 dollars. À cause des sciences de l'information, de la loi de Moore qui postule que tous les 18 mois, la puissance informatique est multipliée par 2. Cette explosion de notre compréhension du génome est en train de déboucher aujourd'hui sur notre capacité à modifier notre génome. Le coût de la thérapie génique est divisé par 1000 tous les 9 ans. Donc changer un morceau d'ADN, changer un morceau de gène va devenir quelque chose de très simple à l'horizon de 2025. On peut penser que des maladies comme la myopathie du chêne ou la mucoviscidose auront disparu à cette époque. Donc on est dans une phase d'accélération du bricolage du vivant en commençant par la lecture du génome, la modification du génome, puis les cellules souches, les nanotechnologies, c'est-à-dire le fait de réaliser à l'échelle de quelques milliardièmes de mètre des implants, des capteurs qui vont se balader dans notre organisme et qui vont régénérer nos tissus. Nous sommes dans une vraie, comme le disait Jacques, nous sommes dans une vraie révolution technologique à l'interface entre les nanotechnologies, les biotechnologies, l'informatique dont les capacités explosent et puis le C de NBIC, la cognitique, c'est-à-dire les sciences du cerveau et l'intelligence artificielle. Ces quatre composantes sont organisées et fusionnent à l'heure actuelle et vont révolutionner le monde de la médecine et au-delà, vont révolutionner l'humanité et notre rapport politique et philosophique. Alors, à l'existence.
On va essayer de se concentrer sur l'impact que ces deux moteurs de fusée, sciences de l'information et génomique, vont avoir sur les sciences du cerveau, sur les neurosciences. Essayons de comprendre d'abord comment, de votre point de vue, ce qu'on sait sur le cerveau et que nous sommes en train de regarder ou d'étudier ou d'apprendre d'émission en émission ici, comment cela va s'accélérer en se fondant sur ces deux domaines qui, a priori, n'ont pas de rapport avec les neurosciences.
A priori, non. Mais en réalité, comprendre le cerveau suppose avoir beaucoup d'informatique. Donc chaque fois que la puissance informatique augmente, on comprend de mieux en mieux le cerveau. Et puis notre connaissance du fonctionnement génétique, notre connaissance de la biologie moléculaire, elle aussi concourt à notre compréhension de la façon dont le cerveau produit l'âme, produit la conscience. Même si cela peut parfois choquer les croyants que le neurone produise la conscience. L'augmentation de la puissance informatique, elle est fondamentale. Il y a 100 milliards de neurones dans un cerveau. Et chaque neurone a à peu près 1000 connexions, 1000 synapses, c'est-à-dire ça fait 100 000 milliards de connexions. Pour modéliser le cerveau, il faut une puissance informatique absolument extraordinaire. C'est-à-dire la puissance informatique maximale disponible aujourd'hui, 33 millions de milliards d'informations par seconde, est insuffisante pour comprendre le fonctionnement cérébral. En réalité, il faut une puissance de l'ordre de l'exaflop, c'est-à-dire des milliards de milliards d'informations par seconde pour chaque ordinateur, pour décrypter le fonctionnement et la dynamique du cerveau. C'est une puissance informatique qui va être disponible d'ici la fin de la décennie. Donc on voit que l'augmentation de la puissance informatique est absolument fondamentale pour permettre de décrypter l'objet le plus complexe de l'univers connu, qui est notre cerveau. Le plus complexe connu aujourd'hui. Il y a peut-être des formes de vie plus complexes dans l'univers. En tout cas, aujourd'hui, nous ne les avons pas rencontrées.
Bon, alors ça suppose évidemment des modèles mathématiques pour analyser le cerveau, mais en quoi est-ce que la génomique, qui pour l'instant, comme vous l'avez dit, s'adresse au génome, à la cellule souche, peut permettre, sans faire de la science-fiction, de s'intéresser au cerveau, par exemple? Est-ce qu'on peut imaginer que par différenciation des cellules souches, on arrive à reproduire certaines parties du cerveau, comme on va reproduire les parties du foie ou du cœur, et est-ce qu'on peut imaginer de remplacer et ou de compléter et ou d'augmenter certaines dimensions de capacité cérébrale?
On va pouvoir faire tout ça, mais ça va être long. Le cerveau est un organe extraordinairement complexe. Nous ne sommes qu'au début de notre compréhension du cerveau. La compréhension globale du fonctionnement cérébral ne sera pas finie avant 2040-2050. Donc notre capacité à bricoler le cerveau va suivre notre compréhension de son fonctionnement progressivement. Mais ce n'est pas demain que nous aurons décrypté tout le cerveau, ce n'est pas demain que nous modifierons le cerveau. En termes de bricolage, on fait des progrès spectaculaires. On a, et les grandes revues scientifiques en ont fait leur couverture il n'y a pas longtemps, on a pour la première fois réussi à fabriquer du cerveau en éprouvette à partir de cellules de peau. Il y a déjà 3 ans, on avait réussi à fabriquer de la rétine, une rétine entière en éprouvette. Maintenant, on a fabriqué des gros morceaux de cerveau à partir de cellules de peau en utilisant la technique des cellules souches iPS, qui a donné le prix Nobel à Yamanaka en 2012.
C'est des souches iPS, c'est-à-dire des cellules qui ne sont pas souches, qu'on fait en quelque sorte régresser pour en faire des cellules
souches. Qu'on transforme en cellules souches et en prenant le plus souvent des cellules de peau, parce qu'à partir des cellules de peau, on peut fabriquer n'importe quel type de tissu aujourd'hui. Donc, on a effectivement une accélération de notre capacité à comprendre et à modifier le cerveau, mais sur un processus qui va être long et, je le répète, qui va prendre plusieurs décennies. En réalité, l'intelligence artificielle, c'est-à-dire l'intelligence issue du microprocesseur, va progresser plus vite que notre capacité à bricoler le cerveau. Dans la course de vitesse entre le neurone et le silicium, le transistor va beaucoup plus vite. Le neurone a 550 millions d'années. Les premiers neurones ont 550 millions d'années. En 550 millions d'années, on a produit le cerveau. Si l'on prend le transistor, le premier transistor a 60 ans. En 60 ans, on a produit Google. Vous voyez bien qu'il y a dans la course de vitesse entre le silicium et puis l'intelligence biologique traditionnelle, le silicium va plus vite. Même si le silicium n'est pas autonome de l'homme et a besoin.
Progression,
il va plus vite en termes de progression parce que l'évolution darwinienne par sélection naturelle du cerveau est extraordinairement lente. Elle a produit le cerveau, mais elle est très lente, alors que la sélection, si j'ose dire, artificielle de l'intelligence artificielle, elle est extrêmement rapide. Donc aujourd'hui, on est à un moment où finalement les capacités de notre cerveau augmentent, mais faiblement, par décennie, alors que la puissance informatique est multipliée par 1000 par décennie, par 1 million tous les 20 ans.
N'oublions pas que pour l'instant, la capacité de ce que vous appelez le silicium, c'est-à-dire la capacité de calcul, augmente parce qu'il y a des cerveaux humains qui le font augmenter.
Bien évidemment.
On n'en est pas encore au moment, et est-ce qu'à votre avis, il arrivera un jour où la progression de l'intelligence artificielle ne dépendra que de la volonté de l'intelligence artificielle elle-même?
Ce serait la fin de l'homme. Il est clair qu'il faut à tout prix empêcher une autonomisation de l'intelligence artificielle. D'ailleurs, ces craintes, qui étaient les craintes déjà des années 50, de la science-fiction vintage des années 50, refont surface aujourd'hui. En quelques semaines, Bill Gates, Stephen Hawking, l'astrophysicien, des prix Nobel anglais, Elon Musk, le fondateur de Tesla, l'un des responsables de l'intelligence artificielle chez Google, ont lancé un cri d'alarme sur le risque que l'intelligence artificielle n'extermine l'humanité dès le 21e siècle. Donc on est à un moment où cette inquiétude se fait jour, et il est clair qu'il va falloir encadrer l'intelligence artificielle et qu'en aucun cas il ne faut la rendre autonome par rapport au cerveau humain.
L'intelligence artificielle, c'est avoir l'aspect humain de l'intelligence ou devenir un modèle idéal d'intelligence?
On n'a pas encore de modèle. On ne sait pas ce que sera l'intelligence artificielle de demain. Dans les années 50, on imaginait une intelligence humanoïde, c'était le cyborg. Et puis finalement, le premier embryon d'intelligence artificielle sur Terre est très différent de ça. C'est Google, qui est sous une forme d'une intelligence dématérialisée qui pompe tout le savoir humain et qui progressivement devient de plus en plus intelligente, même si Google n'a pas de conscience. C'est-à-dire, n'est pas ce qu'on appelle une intelligence artificielle forte, c'est une intelligence artificielle embryonnaire faible. Donc ce que sera l'intelligence artificielle demain, nous ne le savons pas. Personne n'avait prédit Google. Il est clair que la forme que prendra l'intelligence artificielle en 2040-2050, nous ne la connaissons pas aujourd'hui.
Est-ce que vous pouvez préciser pour nos auditeurs en quoi Google est le meilleur exemple d'intelligence artificielle?
Google est l'intelligence artificielle la plus sophistiquée du moment. La preuve, on y passe 3 heures par jour. C'est bien parce que Google est intelligent qu'on pose tant de questions à Google. Bien sûr, Google n'est pas encore au niveau d'une intelligence biologique, mais progresse extrêmement vite de par sa structure. C'est-à-dire que Google est organisé comme un cerveau avec des synapses. Les synapses, c'est-à-dire les liens entre les neurones, sont là remplacés par les liens hypertextes entre les pages. Et en fait, c'est un mécanisme qui est à la fois neuronal et darwinien qui se rapproche très vite d'un cerveau qui évoluerait sous forme d'une sélection artificielle.
Je vais même pousser l'intérêt de notre conversation en disant que je suis en complet désaccord avec ce que vous venez de dire. D'abord parce que quand on regarde Google, les questions qu'on lui pose sont les mêmes que celles qu'on posait à Google il y a 15 ans. On lui pose une question très sommaire. Mm-hmm. On lui demande de nous retrouver un film, un livre, un auteur, un personnage. Mais Google ne comprend rien à une question sophistiquée. Mm-hmm. Si je demande à Google que faut-il penser de la philosophie kantienne, il va même pas comprendre ma question. Et même des choses beaucoup plus simples que ça. Quel temps fera-t-il demain? Google ne comprend pas. Donc il ne comprend que des mots, il n'y a pas encore de sémantique dans cette question. Donc il n'y a pas d'apprentissage sémantique dans Google.
Il n'y a pas d'apprentissage sémantique.
Et donc on n'a pas encore le web sémantique qui sera le vrai progrès que Google n'a pas fait. On peut dire même d'une certaine façon que Google accumule énormément d'informations et les classe de façon extraordinairement bête et méchante. Il a beaucoup d'informations mais il les classe de façon purement statistique et pas avec aucune conception du sens. On peut même craindre que l'intelligence artificielle, si elle ressemblait à Google, soit justement la négation même de l'intelligence, puisqu'il n'y a aucune introduction de l'idée de sens dans Google. Il y a juste des matériaux bruts
sans
la moindre signification.
J'ai parlé à propos de Google d'un début, de commencement, d'un embryon d'intelligence artificielle. Il est clair que nous ne sommes pas du tout en face d'une intelligence artificielle forte. On voit aujourd'hui certains systèmes informatiques commençaient à réussir ce qu'on appelle le test de Turing, c'est-à-dire des programmes informatiques qui arrivent à se faire prendre pour un être humain. Un test récent a réussi à tromper 30% d'une assistance qui a cru que le système qu'ils avaient en face d'eux était un adolescent de 13 ans. Donc c'est le début de l'intelligence artificielle quand un ordinateur arrive à faire croire qu'il ait...
C'est pas Google, ça.
Ce n'était pas Google, c'est un autre programme. On voit bien qu'aujourd'hui, on est dans une phase de démarrage de cette intelligence artificielle. Les pronostics sont très variés. Il y a des gens qui pensent qu'il n'y aura jamais d'intelligence artificielle forte. À l'inverse, les dirigeants de Google sont persuadés qu'elle est là pour pas très longtemps. Et Kurzweil, l'ingénieur en chef de Google, déclare régulièrement que l'intelligence artificielle forte avec une conscience forte, c'est pour 2029. Je ne sais pas comment il fait pour être si sûr de la date à un an près, et qu'en 2045, l'intelligence artificielle sera 1 milliard de fois plus puissante que la totalité des cerveaux humains. Mais nous sommes aujourd'hui dans la prospective, il n'existe pas d'intelligence artificielle forte. La seule chose que l'on voit, c'est qu'en application thématique, on commence à avoir des résultats spectaculaires. La Google Car, elle est spectaculaire. Elle n'a pas de conscience.
Qu'est-ce
mais elle est capable de rouler. Elle est capable de rouler sans conducteur. Et sur 900 000 km, elle n'a toujours pas eu d'accident. C'est une forme très spécialisée d'intelligence, sans conscience. C'est une intelligence artificielle faible. Mais elle montre que les choses vont vite parce qu'il y a 5 ans, aucun constructeur automobile ne pensait qu'il serait un jour possible d'avoir une voiture qui se conduit tout seul. 5 ans plus tard, elle existe.
Oui, ça renvoie à une forme... C'est pour ça que je ne voudrais pas qu'on dévoie le mot intelligence. Ça renvoie à une forme d'automatisme assez simple. Quand on regarde ce que fait la voiture en question, elle roule avec un GPS et quelques senseurs qui lui permettent de voir ce qu'il y a autour.
Qui font quelques centaines de milliards d'opérations.
Oui, bien sûr, mais c'est beaucoup d'opérations, mais rien de très créatif ni intelligent. Donc ça, on pouvait... Et quand on parle aux dirigeants de Google, ce qu'ils disent, c'est que l'avenir de leur fonction, c'est d'être capable de guider, d'être des gens qui vont orienter les gens. Sur Google, on s'oriente dans les difficultés bibliothécaires, des archives diverses et documents. La voiture est guidée, donc c'est des mécanismes de guide. On peut d'ailleurs s'inquiéter sur le mot guide, qui en allemand a une traduction dont chacun connaît la signification tragique qu'elle a pu prendre à certaines périodes de notre histoire. Mais cette fonction de guide, de conseil, de directeur, c'est pas l'intelligence.
C'est clair.
C'est celui qui ouvre une voie, qui permet d'avancer, mais c'est pas une intelligence. C'est même d'une certaine façon la négation de l'intelligence, puisque ça la remplace.
Intelligence artificielle, déjà,
c'est un oxymore.
Non, mais pour avoir une authentique intelligence artificielle forte, il faut encore plusieurs décennies. Il faut beaucoup plus de puissance des calculs qu'on a aujourd'hui. Il faut des zettaflops, des yottaflops, donc des puissances informatiques sans doute 1 million à 1 milliard de fois supérieures à ce qu'on a, et d'immenses progrès en matière d'algorithmes. Nous sommes à plusieurs décennies d'avoir une intelligence artificielle forte. Le fait nouveau, on l'a dit tout à l'heure, c'est que beaucoup d'experts pensent que cela va arriver et qu'il faut s'en prémunir, car effectivement, on peut penser que les États ne vont pas chercher à avoir une intelligence artificielle hostile, mais on pourrait imaginer des groupes terroristes nihilistes qui voudraient anéantir la planète en utilisant une intelligence artificielle qui diffuserait en 1 millième de seconde dans l'ensemble du réseau Internet. Car la différence avec la vision qu'on avait dans la science-fiction il y a 30 ou 40 ans, c'est qu'aujourd'hui, avec le réseau Internet, l'ensemble de la planète est contrôlable à partir du web et que, par définition, une intelligence artificielle évolutive arriverait à passer tous les firewalls en un instant et contaminerait l'ensemble du système Internet.
Là, vous en êtes encore dans la description que vous décrivez, à une intelligence artificielle qui serait la marionnette d'une intelligence réelle, d'une intelligence perverse. Là où on peut craindre le pire, c'est quand si l'intelligence artificielle elle-même déclare que l'humanité dans son ensemble, y compris les groupes terroristes, devient son ennemi.
Elle pourrait s'autonomiser comme Ben Laden, après avoir été armé par les Américains, s'est autonomisé et est devenu hostile sans en référer à la CIA. On pourrait tout à fait imaginer. D'ailleurs, le scénario, entre guillemets, Terminator, est un scénario dans lequel l'IA est d'abord assujettie à l'homme et finit par se libérer.
L'intelligence artificielle
finit par se libérer de la tutelle humaine et finit par... Mais quoi qu'il en soit, la révolution de l'intelligence artificielle, même s'il n'y a pas une intelligence artificielle forte au XXIe siècle, c'est que beaucoup de métiers, beaucoup d'êtres humains vont être challengés par cette intelligence artificielle, même si elle n'est pas forte. Comme le disait Bill Gates, la fusion de la robotique de deuxième génération et de l'intelligence artificielle va entraîner des bouleversements sociétaux et sur le marché du travail absolument monstrueux. La Google Car n'est que le premier exemple d'une menace pour des millions de travailleurs sur Terre. Et cette vague schumpeterienne, c'est-à-dire cette évolution technologique extrêmement rapide, elle n'est pas du tout anticipée par la société civile et par les gouvernements. C'est d'ailleurs ce que disait Bill Gates, qui se lamentait que les pouvoirs publics ne réfléchissaient pas aux conséquences immenses sur les 20 prochaines années de l'arrivée d'une robotique de deuxième génération.
Alors justement, on va creuser là-dessus, parce que cette intelligence artificielle, telle qu'elle est prosaïquement probable, sans entrer dans la science-fiction la plus absolue, a en effet des conséquences que vous décrivez très bien dans beaucoup de vos textes sur l'espérance de vie, sur l'emploi, sur le creusement des inégalités, parce que toutes les classes moyennes disparaissent, puisque l'intelligence artificielle, c'est faire des choses qu'on confie à ce qu'on appelle la classe moyenne, même si la classe moyenne est composée de gens qui ont une intelligence très considérable et supérieure à ce dont on l'utilise. C'est une autre question. Donc il y a une accélération par l'intelligence artificielle, de la dévalorisation des fonctions occupées par les classes moyennes, donc inévitablement une dévalorisation de leurs revenus, et un creusement de l'écart entre les très riches et le reste de la population. Et donc une aggravation de la baisse du pouvoir d'achat et tout ce que ça implique comme phénomène de crise économique.
Dans une première étape.
Oui, mais la première étape, elle peut durer très longtemps.
S'il existe une intelligence artificielle forte, le capitalisme et l'argent disparaîtront.
Oui.
Il n'y a pas d'argent, il n'y a plus de capitalisme le jour où il y a une intelligence artificielle forte.
Là, on est dans l'utopie
terme.
Salvatrice d'un cauchemar temporaire et durable.
Donc, non, la mort de l'argent, je ne m'en réjouis pas du tout. Je trouve que l'argent est quelque chose de tout à fait noble.
Comme mesure de la rareté, sans doute. Est-ce que vous pouvez revenir sur l'impact de l'intelligence artificielle sur le cerveau et sur l'espérance de vie, en particulier sur les maladies du cerveau telles qu'on les voit dans les autres émissions?
Non, mais l'intelligence artificielle, même si elle n'est pas dotée d'une conscience, va faire des progrès tout à fait considérables en médecine. C'est-à-dire, elle conduit des voitures, la Google Car, elle aide en génétique du cancer. Watson, qui est l'ordinateur développé par IBM, est en train de dépasser aujourd'hui les cancérologues dans l'analyse des causes des tumeurs, notamment du poumon. Donc, sur l'ensemble des nanobiotechnologies, l'intelligence artificielle va permettre de faire des progrès tout à fait considérables. On a dit que des tas de métiers vont être remplacés. Cela va se faire sur quelques décennies. Et là, ça pose un problème politique, c'est que fait la société face à ce tsunami de l'intelligence artificielle pour éviter que 80% de la population soit marginalisée. Car on est en 2050, on a un embryon d'intelligence artificielle, on a des robots beaucoup, beaucoup plus avancés qu'aujourd'hui, la Google Car s'est généralisée, ou des voitures autonomes du même type. Que fait-on des gens qui n'ont pas des capacités cognitives élevées ? Parce qu'on voit bien que dans cette société-là, il restera de la place pour des chercheurs, pour des savants, pour des innovateurs, pour des artistes. Il n'y aura pas forcément de place pour des cadres moyens au sens où on l'entend aujourd'hui. Et l'école n'organise pas le savoir des jeunes générations pour leur permettre de prendre une place dans cette société de demain qui sera très différente de ce qu'elle est aujourd'hui.
Je vous avais dit toute une série de choses dont une phrase qu'il faut relever parce qu'elle est à mon avis assez parée du reste, qui n'ont pas de capacité cognitive élevée. C'est une question dont nous discutons souvent entre nous, mais ils pourraient très bien avoir des capacités cognitives élevées, il se trouve qu'on ne les utilise pas. Mais avant de revenir à ça, et on va y revenir. Je voulais prendre un exemple et que vous me disiez ce que vous en pensez. Dans la Coupe du Monde de football qui vient de se terminer, on a eu un commencement extraordinaire et mal connu d'usage de l'intelligence artificielle. Dans la mesure où des grandes sociétés de logiciels, vous avez cité Google, je vais en citer une autre, c'est SAP, ont mis au point des logiciels qui permettent de mesurer en permanence les comportements des joueurs, de retrouver ces comportements des joueurs passés et de fournir des analyses statistiques, par exemple tel joueur, quel pourcentage de chance, de probabilité a-t-il de dribbler à gauche plutôt qu'à droite, de fournir toutes ces informations à l'entraîneur qui les fournit à ses joueurs et qui permet ainsi d'améliorer considérablement la prédictibilité du comportement. C'est toujours l'idée de guider les autres. Qu'est-ce que ça vous donne comme idée de ce qui peut venir encore après dans l'usage, ce qu'on appelle du big data, c'est-à-dire des données accumulées, qui est une sorte d'intelligence brute? Et
alors, il n'y a pas d'intelligence artificielle dans la corrélation que l'on recherche à partir du big data. Il est clair qu'on va avoir de plus en plus d'informations. Ce que vous citiez sur la Coupe du Monde est tout à fait juste. Mais demain, l'iPhone 10.0 mesurera des milliards d'informations sur notre corps chaque jour. L'iPhone ou celui d'après aura des fonctions médicales. On le sait bien aujourd'hui. Google va aussi sortir des smartphones dans des fonctions médicales. On va pouvoir prédire un certain nombre de maladies à moyen terme par des corrélations pures, sans recherche de causalité. Il est tout à fait possible qu'en 2030, on puisse prédire que quelqu'un va faire un infarctus dans une quinzaine de jours. Il va être possible, puisqu'on peut maintenant mettre un spectromètre de masse dans un téléphone portable. Un spectromètre de masse analyse la composition de la matière. Et un spectromètre de masse est capable de mesurer le contenu de notre sang et va être capable de mesurer le protéome, c'est-à-dire les 200 000 protéines qui sont dans notre sang.
Sans piqûre.
sans piqûre, simplement par analyse à distance ou par simple contact avec la peau et avec les capillaires de la peau. Donc on va effectivement, en travers, au terme du big data, faire des corrélations de plus en plus fines. Et demain, on va se servir du big data pour transformer l'éducation parce que de mon point de vue, la médecine, l'éducation vont fusionner dans les années qui viennent. Face à cette menace de classe moyenne et de classe défavorisée, complètement marginalisée face à l'intelligence artificielle et à la robotique de deuxième génération, la société n'a que deux solutions. Soit on continue à ce que l'école fonctionne comme aujourd'hui, elle fonctionne aujourd'hui comme il y a 1000 ans, elle n'a pas progressé technologiquement, et nous aurons une marginalisation de plus en plus forte des classes moyennes et des classes défavorisées, soit nous adaptons l'éducation au monde qui vient. Il faut bien voir que l'éducation est en 2014 dans l'état où était la médecine en 1750. Totalement artisanale. En 1750, on acceptait qu'un enfant pauvre meure dans la rue sans soins. Aujourd'hui, on accepte que des gens peu favorisés restent peu favorisés. Il n'y a pas de combat pour augmenter leur capacité cognitive. Et on ne peut que constater, quelle qu'en soit la cause, qu'elle soit génétique ou non génétique, qu'il y a des différences de capacité cognitive entre les individus, malheureusement. Et la société tolère ces inégalités, alors que cette inégalité de capacité cognitive, de quotient intellectuel, est la plus grande des inégalités, beaucoup plus grande que l'inégalité d'argent. Parce qu'elle est à l'origine des inégalités d'espérance de vie, elle est à l'origine des différences de diplômes, de catégories socioprofessionnelles et de niveaux de revenus. Il faut savoir que dans un pays comme la France, il y a 14 ans d'écart entre les gens à très haut quotient intellectuel et les gens à quotient intellectuel médiocre. 14 ans de différence. Ce qui ne signifie pas que cette différence soit intégralement d'origine génétique, c'est un autre sujet. Mais cette énorme différence entre les gens ayant des capacités cognitives fortes et faibles est une injustice absolument immense. Et nous trouvons aujourd'hui qu'elle est normale, nous la tolérons. Je suis persuadé que nos petits-enfants en 2060 considéreront que nous étions des grands réactionnaires d'accepter ces différences de capacité cognitive.
Oui, ce qui s'est produit dans la médecine, c'est à la fois des découvertes majeures qui ont permis, avec la vaccination et tout ce qui a suivi, de faire progresser la médecine, et son industrialisation qui a conduit au fait qu'une grande partie de la médecine est devenue source de développement économique, proprement dit. En matière d'éducation, comme vous le dites très justement, on est resté non pas à ce qu'on enseignait il y a 1000 ans, mais même il y a 2000 ans ou 3000 ans, puisqu'on enseigne comme au lycée grec.
Donc, la première rupture, ce sont les MOOC.
Voilà. Alors, est-ce qu'on en a parlé dans une autre émission ici, en quoi le triptyque neurosciences, génomique et sciences de l'information va pouvoir modifier soit la capacité d'apprendre, soit la capacité d'enseigner, qui n'est pas la même chose, soit la structure même de ce que vous appelez le quotient intellectuel.
On va probablement tout faire. On va industrialiser l'éducation et les MOOC, c'est le début. C'est-à-dire les cours online sont le début, en personnalisant les cours en fonction de ce que l'on a compris, de ce qu'on n'a pas compris dans le passé, en fonction de nos caractéristiques cognitives. Demain, en fonction de nos caractéristiques de câblage neuronal, que l'on saura comprendre, et de nos caractéristiques génétiques, on va donc personnaliser le parcours éducatif de chaque enfant en fonction de ses caractéristiques biologiques, génétiques et de câblage neurologique. Dans un deuxième temps, il est possible que la société décide de manipuler le cerveau pour augmenter ses capacités. C'est notamment ce qui pourrait arriver si effectivement une intelligence artificielle forte existe en 2040 ou 2050, où la société aura le choix entre, je le répète, laisser plein de gens marginalisés, incapables de se battre face à l'intelligence artificielle, au lieu de vouloir augmenter le niveau de tous les hommes pour les mettre au niveau des systèmes experts et des algorithmes. Ce sera un choix de société, et je pense personnellement que la neuroculture, c'est-à-dire l'augmentation des capacités cognitives des gens peu favorisés, sera une valeur de gauche et sera une valeur de l'État-providence, et que l'État-providence s'occupera autant d'éducation en 2050 que de santé aujourd'hui.
Alors on creusera ce concept de neuroculture après une petite pause musicale.
Soyez les bienvenus à Altaïr 4, messieurs. Je dois vous conduire jusqu'à la résidence. Si vous ne parlez pas le français, je tiens à votre disposition 187 autres langues, y compris leurs différents dialectes et dérivés.
Non, ça ira très bien comme ça, merci. Soit dit sans vous offenser, vous êtes un robot, n'est-ce pas?
C'est exact, monsieur. Pour votre commodité, je suis réglé pour répondre au nom de Robbie.
Et docteur, c'est-il un mâle ou une femelle?
Dans mon cas, monsieur, la question n'a aucune signification.
C'est un extrait de La Planète Interdite, un film dans lequel apparaît ce robot Robbie, qui est un robot qui obéit aux lois d'Asimov, et qui est en fait un film qui est un remake de La Tempête de Shakespeare. Le personnage du robot, c'est Ariel, en fait, de la tempête. Et la deuxième partie qu'on a entendue, c'est une chanson du film Hair, de Spikey John, dans lequel on voit surgir une histoire d'amour entre un être humain et une intelligence artificielle qui n'a que la voix de Scarlett Johansson. Revenons sur ce que vous disiez tout à l'heure sur la culture ou l'éducation à la transformation du niveau intellectuel ou du niveau de quotient intellectuel. Nous avons aussi élaboré et discuté de ce concept avec d'autres interlocuteurs. Comment verriez-vous cette mission de la société ?
Laurent Alexandre.
Les injustices de capacité cognitive sont intolérables. Et elles se traduisent par tout ce qu'on a dit, moins d'espérance de vie, moins de diplômes, un métier moins intéressant. Il est clair, Jacques, qu'entre quelqu'un qui a des capacités cognitives modestes ou mal mises en valeur, et vous qui avez être l'un des hommes les plus intelligents d'Europe, en termes d'existence, d'intérêt dans ce que l'on fait, il y a deux vies différentes. Et cette différence, elle n'est pas tolérable, elle est trop importante. Il faut augmenter le niveau et la capacité des gens les moins doués pour leur permettre d'être plus épanouis, de monter dans ce qu'on appelle la pyramide de Maslow, c'est-à-dire d'arriver à s'épanouir, d'arriver à s'accomplir.
Mais ça tient très largement au milieu familial, à l'environnement.
Cela tient à plusieurs facteurs que l'on connaît plutôt pas mal. Des facteurs génétiques. Et puis des facteurs d'environnement. Les facteurs d'environnement, c'est l'école. Et l'école doit être renforcée, doit être modernisée. La famille, les amis, les stimuli intellectuels auxquels on a été confronté, étant petit enfant, étant enfant, dans le milieu familial, dans le milieu scolaire.
Qu'on fait avec ça ?
Malheureusement,
il y a l'autre dimension qu'il faut citer en même temps, celle à laquelle Laurent tient particulièrement, c'est-à-dire la dimension proprement héréditaire.
La dimension qui n'est pas forcément héréditaire,
pas génétique.
Il peut y avoir des mutations qui n'étaient pas présentes chez les parents. La dimension génétique, dans les dernières études, on pensait qu'elle était plutôt moitié, c'est-à-dire moitié environnement, moitié génétique. Il semble malheureusement qu'on soit plus près des deux tiers sur la partie génétique et l'environnement ne serait qu'à un tiers dans la détermination de nos capacités cognitives.
Pouvez-vous citer une source qui dit
ça ? La grande étude qui a été faite et publiée dans le journal scientifique PLOS à partir des registres britanniques en comparant les vrais jumeaux, les faux jumeaux et les non-jumeaux. En Angleterre, on a les capacités cognitives des enfants à 16 ans parce qu'ils sont systématiquement testés de façon transversale chaque année. Et la part génétique est importante. Tout ça pour dire qu'il faut aider les parents. Il faut former les parents pour donner un environnement stimulant aux enfants. Il faut moderniser l'école, il faut personnaliser les savoirs en utilisant toutes les techniques dont on a parlé tout à l'heure. Il faut enfin mettre des vrais managers à l'école. C'est-à-dire, pas des managers pour que l'école soit au service de l'entreprise, des managers pour que l'école soit rationnelle. Il faut industrialiser au sens propre et au sens noble l'école. Mais malheureusement, l'environnement ne va pas suffire à supprimer les inégalités. Et donc, la société, là encore, va être confrontée dans les décennies qui viennent à un dilemme. Même si on modernise l'école, même si on modernise la façon dont l'environnement profite aux enfants, il va persister des inégalités qui vont être des inégalités liées à un déterminisme plus génétique. Et la société, là encore, va avoir deux choix. Soit on pérennise ces inégalités, soit la société décide d'utiliser les technologies NBIC, les nanotechnologies, les biotechnologies, l'informatique, les sciences du cerveau, etc., pour aider les gens qui ont des capacités inférieures. Cette décision de faire de la neuroculture industrielle, c'est-à-dire d'augmenter les capacités du cerveau pour réduire les inégalités, je suis persuadé que c'est une décision que les sociétés modernes et évoluées feront. Et je le répète, je suis persuadé que c'est une valeur de gauche. Je suis persuadé que c'est une valeur libérale d'augmenter les capacités cognitives par tous les moyens de ceux qui sont plutôt moins doués.
Libéral au sens anglais du mot.
Bien sûr.
Mais alors, concrètement, comment on fait ? Ou comment on pourra faire ça ?
Alors, sur la partie génétique,
oui.
Il s'agit
pour
de génisme.
Pour l'instant, on ne sait pas.
Il s'agit... Si, on le fait à la marge. La société élimine les embryons porteurs de certaines maladies qui entraînent des quotients intellectuels faibles. Ce qui pose d'immenses problèmes éthiques, et je ne juge pas ces pratiques. Mais 97% des enfants trisomiques sont avortés en France, en Belgique, en Allemagne. Donc c'est une forme d'eugénisme négatif, c'est-à-dire c'est la suppression par avortement des enfants qui ont un problème intellectuel.
Qui auparavant vivaient,
ne se reproduisaient pas parce que les trisomiques ne sont pas fertiles. Mais dans certaines autres maladies, on supprime des enfants qui pourraient se reproduire. C'est l'eugénisme négatif, qui est connoté de façon extrêmement négative compte tenu du drame qu'on a connu au milieu du siècle dernier. Puis à côté de ça, on a l'eugénisme positif, sur lequel les Chinois travaillent beaucoup, qui est cette fois-ci de sélectionner les embryons, c'est-à-dire de fabriquer un nombre important d'embryons, de séquencer les embryons et de choisir d'implanter l'embryon qui va avoir les meilleures caractéristiques physiques et intellectuelles.
Mais on n'a pas la moindre idée de la façon dont on peut mesurer les capacités intellectuelles futures d'un embryon.
Alors, Jacques, vous savez bien que ça n'est pas exact. On connaît très bien les variants, enfin on connaît pas mal les variants génétiques qui donnent des QI faibles. On connaît pas mal l'origine génétique des handicaps mentaux.
Oui, ça,
en
ça,
revanche,
ça,
la, méde-
oui,
la, la médecine...
C'est ce que
la
vous
médecine,
disiez tout à l'heure sur les trisomiques.
La médecine, mais il y a des milliers de mutations qui entraînent des QI bas et on en connaît pas mal. Ce sont souvent des maladies orphelines et il y en a plusieurs milliers. Pour les caractéristiques génétiques qui donnent des QI élevés, on connaît quelques variants génétiques, mais on n'en connaît pas beaucoup. Pourquoi on n'en connaît pas beaucoup ? Parce que la médecine n'a jamais essayé d'expliquer pourquoi génétiquement vous avez, vous, le quotient intellectuel que vous avez en tant que hyper surdoué ? Ce n'était pas le métier de la médecine. Et donc cela ne fait que très peu de temps qu'on a commencé à se poser la question pourquoi les gens extrêmement doués le sont. Et ces travaux sont menés aux États-Unis et surtout en Chine. Et comme vous le savez, la Chine est en train de séquencer 2500 surdoués, c'est-à-dire de gens ayant un quotient intellectuel cette fois-ci supérieur à 160, pour déterminer les variants génétiques qui expliquent ces QI faibles. Ça va prendre quelques années, mais on va trouver des variants génétiques qui donnent des QI élevés. Et il est clair que les Chinois, dans leurs déclarations, dans les déclarations des scientifiques qui travaillent là-dessus, cela l'attestent, il est clair que les Chinois n'ont aucune réticence à faire de la sélection d'embryons à partir de l'analyse des variants génétiques prévoyant l'espérance mathématique, on va dire, de quotient intellectuel des enfants. Nous avions parlé des travaux de Bostrom là-dessus. Bostrom a très bien modélisé. Bostrom, qui est un spécialiste de ces sujets à Cambridge, UK, a montré qu'on peut augmenter le quotient intellectuel d'un pays de 50 à 60 points en très peu d'années, en très peu de décennies, en utilisant ces techniques de sélection embryonnaire. Ce serait un bouleversement de la société. on se trouverait assez rapidement dans la situation où est l'Islande dans le meilleur des mondes, puisque dans le meilleur des mondes d'Huxley, on a parqué un certain nombre d'alphas en Islande, et donc on a créé une réserve de gens hyper intelligents. On se trouverait dans une situation où on aurait une élévation très forte du quotient intellectuel de la société, ce qui modifierait complètement nos repères organisationnels et politiques, qui de toute façon serait sans fin, car il est clair qu'on ne s'arrêtera pas à 160 de quotient intellectuel et qu'on sera dans une course permanente à l'augmentation du quotient intellectuel des populations.
Si on continue dans votre réflexion en s'intéressant au cas de la Chine, dans votre description de l'avenir de l'intelligence artificielle, il y a deux scénarios possibles. Un scénario vraiment démocratique où on dit par tous les moyens sociaux, génomiques, si tant est que ceci ont un sens. Par tous les moyens. Mais restons, pour ma part, je resterai plutôt aux moyens sociaux, éducation, famille, etc. Mais ajoutons ce que vous souhaitez.
Qui sont essentiels.
Hein. Oui, ajoutons les autres. Supposons, dans le premier scénario, on augmente la capacité intellectuelle de tout le monde. Et en particulier, on débloque tout ce que l'éducation n'arrive pas encore à développer. Question que j'aurais posée par rapport à ça, mais je vais en poser en même temps une question sur l'autre branche de l'alternative. Qu'est-ce qu'on peut faire d'une société dans laquelle tout le monde serait pas avec plus de 27 ? Première question. Deuxième question, à supposer qu'on ne le fasse pas et qu'on estime que tout le monde a bac plus 26, ça pose un autre type de problème. Est-ce qu'on ne va pas plutôt avoir la tentation de développer une super élite intellectuelle à bac plus 40, mais en laissant tous les autres à bac moins 5
parce que... Bac plus 40 sans y passer 40 ans, parce qu'on fera des études plus courtes.
Bien sûr, bac plus 40 symbolique.
Symbolique.
Et encore, si on suit votre raisonnement sur l'espérance de vie qui augmente, bac plus 40, ça sera anecdotique sur une vie de 300 ans. Surtout qu'en plus, il y aura l'éducation permanente, etc. Mais est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'il y a au contraire un scénario où on ne ferait qu'augmenter la capacité intellectuelle d'une petite catégorie, qui serait comme c'est le cas d'ailleurs implicitement dans la société occidentale, et en particulier dans la société française, où ce sont les enfants de gens qui ont un capital culturel, qui ont le capital culturel, puisque le capital culturel est héréditaire plus encore, ou moins autant que le capital financier. Et le fait que ça soit en Chine renvoie peut-être à cette grande opposition entre la société démocratique idéal d'égalité libertaire et la société mandarinale, confucéenne, idéal d'un élitisme pyramidal dont il y a deux modèles dans le monde aujourd'hui qui fonctionnent pas si mal, c'est-à-dire le système chinois et le système du Vatican.
C'est la grande question du XXIe siècle. De toute façon, les grands enjeux du XXIe siècle, au-delà des apocalypses terroristes, c'est ce qui tourne autour du cerveau. Qu'allons-nous faire du cerveau? Comment allons organiser le cerveau? Et donc, de savoir comment nous allons réduire ou pas les inégalités en utilisant ou pas les technologies NBIC est la seule vraie question du XXIe siècle, et c'est notamment la question de l'éducation. Alors, il est clair que dans un pays comme la France, on a décidé d'abandonner l'éducation. Pour des raisons politiques, pour des raisons de lâcheté, on a abandonné l'éducation, notamment dans les milieux défavorisés. Et il est clair que...
Vous êtes injuste. Il y a beaucoup de gens qui font des efforts magnifiques.
Il y a des efforts absolument magnifiques. Mais l'output est mauvais. On est mauvais sur PISA. Et donc, les efforts de quelques-uns tout à fait méritoires ne compensent pas l'impéritie technocratico-bureaucratique du centre qui est incapable de moderniser l'éducation. Mais, excusez-moi, Jacques, quand on voit en 2014 comment on apprend l'anglais à nos enfants en France... Par rapport à la façon moderne dont on l'apprend ailleurs, comment mes enfants, moi qui vis à Belgique, sont multilingues, sans aucun effort, alors qu'en France, à 17 ans, on ne connaît toujours pas les verbes irréguliers, on se dit qu'il y a un vrai problème dans l'éducation et qu'elle a failli. Ce n'est pas la faute des profs, peut-être, c'est la faute du système qui refuse de faire venir des natifs anglo-saxons éduqués dans nos maternelles, enseignés dans nos maternelles. Je ne sais pas à quel niveau est la responsabilité, mais en tout cas, les efforts magnifiques des enseignants dont vous parlez sont gâchés par un système qui, globalement, a failli dès aujourd'hui, avant même de parler des technologies dont nous parlons tout à l'heure. Comment va s'organiser ce débat? Je ne sais pas. Il est possible que dans les années qui viennent, nos élites comprennent plusieurs choses. Un, que nous connaissons une vague schumpeterienne, c'est-à-dire une vague d'innovation absolument extraordinaire, un tsunami d'innovation. Que l'économie mondiale est en train de changer, que notre système n'est pas adapté, que notre école n'est pas adaptée au monde qui vient, que les injustices intellectuelles et cognitives entre individus sont intolérables. Il est possible que le système politique, nos élites, le président de la République, que vous connaissez un peu, comprennent cette situation et décident de changer le paradigme dans lequel nous nous enfonçons. Il est aussi possible qu'on reste dans le schéma médiocre dans lequel on est, où les élites refusent de comprendre le monde qui vient, ne voient pas l'arrivée des technologies NBIC et se satisfassent d'un système dans lequel l'école de la République est séparée entre les Louis le Grand d'un côté et puis des écoles de mauvais niveau malgré tous les efforts des enseignants dans les quartiers déshérités. Le choix va se faire dans les quelques années qui viennent. On peut être relativement pessimiste quand on voit sur des cas très simples comme l'enseignement des langues dont je vous parlais et qui est quand même un point fondamental et facile à mesurer à quel point l'école de la République a failli. Car il est clair que le petit français, par rapport au petit belge ou au petit hollandais, il est profondément défavorisé en matière d'enseignement des langues et c'est l'éducation nationale qui en est responsable.
Quel est le monde ? Comment le monde peut-il vivre avec une libération de toutes les capacités intellectuelles de tout le monde ? Avec 9 milliards de personnes, puisque nous serons bientôt 9 milliards de personnes, qui auraient une espérance de vie de 3 siècles.
Dans un premier temps.
Mettons 2 siècles pour faire plus réaliste, même si ça paraît déjà énorme. Vivre 200 ans, ça pose immensément de problèmes de transmission de génération, d'âge de la retraite.
Mais ça va se faire progressivement, comme vous le savez.
Même progressivement, vous voyez la difficulté qu'on a à concevoir que vivant plus longtemps, il faut travailler un petit peu plus longtemps, même si on travaille un tiers du temps qui est libéré à la retraite, et 2/3 pour la retraite de plus, donc ça a des difficultés. Comment vous imaginez un monde dans lequel on vivrait, mettons 150 ans en moyenne, pour être plus réaliste et plus crédible aux yeux de ceux qui nous écoutent, et dans lequel tout le monde atteindrait le niveau d'une formation qui correspondrait à celui d'un ingénieur de qualité aujourd'hui. Et qui pour autant, comme on le voit dans certains pays en développement, n'entraîne que frustration et ressentiment parce qu'il n'y a pas les métiers adaptés au niveau de formation.
Vous savez très bien, Jacques, que du temps du suffrage censitaire, les nobles et les bourgeois expliquaient dans les gazettes de 1850 comment pourrait fonctionner un univers dans lequel le suffrage ne serait pas censitaire et dans lequel tout le monde voterait. Donc des questions de cette nature, on se les est déjà posées. Et finalement, on a préféré le suffrage universel au suffrage censitaire. Je ne suis pas sûr qu'une société dans laquelle l'intelligence est mieux répartie qu'elle l'est aujourd'hui serait une société invivable, bien au contraire. Et de toute façon, une fois qu'on est relativement accompli et qu'on a réglé les problèmes matériels essentiels, je parle du monde occidental, il est clair que le souhait est quand même un souhait de partage et que la tentation égoïste des gens intelligents de conserver les QI élevés entre soi va progressivement céder la place, de mon point de vue, à une solidarité intellectuelle. De même qu'il y a une solidarité médicale vis-à-vis des enfants pauvres et malades et qu'on ne considère plus comme acceptable qu'un enfant leucémique pauvre n'ait pas sa chimiothérapie parce que papa ne peut pas payer la chimiothérapie, je pense que demain, ce devoir de solidarité de l'État-providence, comme je le disais tout à l'heure, s'étendra à l'éducation et que ce sera considéré par la société comme normal, comme logique et comme sain.
Je veux bien l'admettre, c'est ce que m'est arrivé d'appeler l'altruisme intéressé. J'ai intérêt à ce que les autres soient en bonne santé parce qu'ils sont moins contagieux pour moi, et j'ai les intérêts à ce qu'ils soient mieux formés parce que s'ils sont mieux formés, ils vont m'aider à me réaliser. C'est comme, pour reprendre l'exemple du football, dans une équipe, j'ai intérêt à ce que mes partenaires jouent le mieux possible. Dans un orchestre, j'ai intérêt à ce que les autres musiciens soient les meilleurs possibles. Donc nous avons intérêt au succès des autres, nous avons intérêt à l'épanouissement des autres, il n'y a aucun doute. Mais nous sommes quand même dans des sociétés de rente, de conservation de pouvoir et de hiérarchie, dans laquelle ceci est très...
Oui, mais je pense, vraiment, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, je pense que les NBIC vont changer notre rapport à la religion, notre rapport à l'humanité, notre rapport à nous-mêmes, notre rapport à l'éducation, on l'a dit, mais aussi le rapport à l'argent. Et je pense que la Silicon Valley va tuer le capitalisme, ou pourrait tuer le capitalisme, par le développement des NBIC. Parce que je ne vois pas très bien comment une société où les NBIC sont omniprésentes reste une société capitaliste. Je ne vois pas très bien comment l'argent persiste dans un siècle lorsque les NBIC ont triomphé.
Ça rapproche de l'utopie de Marx selon laquelle nous passons d'une société de la rareté, qui est celle du socialisme, à une société de l'abondance absolue, qui est celle du communisme.
Ce qui n'a pas marché dans un premier temps.
Ce qui est parce que ça a été tenté dans un seul pays, dans le pays retardé, ce qui n'est pas du tout ce qu'il avait en tête. Mais en effet, on peut imaginer que la libération de l'intelligence, l'explosion des sciences du cerveau, c'est l'explosion du règne de la gratuité et donc de la négation de l'argent. Mais il y avait un sujet sur lequel vous avez aussi, que vous avez évoqué, c'est celui des religions.
La religion, il y aurait un lien entre notre cerveau et nos choix religieux, la neurothéologie.
La neurothéologie,
Dalai Lama qui s'y intéresse.
Oui, la neurothéologie, c'est d'expliquer nos comportements religieux en fonction de notre fonctionnement cérébral, de nos ondes cérébrales et notre génome. Il est probable que certains variants génétiques favorisent un petit peu la croyance, notamment en structurant ce qu'on appelle en psychanalyse le surmoi, la religion étant une forme particulière de gestion du surmoi. Mais ce n'est pas un élément déterminant. En revanche, on peut anticiper nos principes religieux en analysant nos ondes cérébrales, et le Dalai Lama s'y passionne, et on peut imaginer dans le futur qu'on puisse modifier nos comportements de croyance et nos comportements religieux par modification génétique. dans les décennies qui viennent. Donc c'est vrai que le rapport entre la théologie, le cerveau, la génétique, ça va être un terrain assez chaud dans les années qui viennent et assez passionnel. Mais il y aura d'autres terrains passionnels avec les religions. Il est clair que le changement de l'humanité, ce que les gens de Google appellent l'humain 2.0, c'est-à-dire un humain modifié par les nanobiotechnologies, l'informatique et puis les sciences du cerveau, ne sera pas forcément accepté par les croyants qui pensent que seule la transcendance peut guider le chemin que l'humanité doit choisir. Quand Kurt Weill, toujours lui, le patron du développement de Google, explique que dès 2035, nous aurons des implants intracérébraux pour nous connecter à Internet plus rapidement, il est clair que cela risque de heurter des croyants qui pensent que l'âme est produite par la transcendance, par Dieu, c'est la théorie dualiste qui date de saint Augustin, qui n'existait pas au début de l'évangile mais qui est arrivée au 5e, 6e siècle. Il peut y avoir des oppositions entre les bioconservateurs et les transhumanistes étant ceux qui veulent développer les technologies NBIC. Donc les conflits du 21e siècle pourraient tout à fait se cristalliser autour de cette opposition entre les bioprogressistes et les bioconservateurs. Et de mon point de vue, je pense qu'au 21e siècle, le clivage gauche-droite va céder la place à un clivage entre les bioconservateurs et les bioprogressistes, qui ne va pas organiser l'échiquier politique de la même façon.
Avec aussi le risque que ce que vous appelez les bioprogressistes tournent en des biomanipulations, dans lesquelles on en arrive à imaginer que ces techniques soient mises au service de propagande politique, de la publicité, que des entreprises comme Google ou autres, sans faire de procès pour une société qui ne le mérite pas, en tout cas sur ce terrain, non, mais puissent utiliser ces connaissances, et c'est en cela où la publicité devient un enjeu majeur, pour persuader, convaincre, non seulement sur le terrain religieux, mais aussi sur le terrain politique. Et d'abord, de façon...
Que Google devienne plus important que les États, plus puissant.
C'est déjà le cas, très largement.
On peut dire qu'au-delà de Google, on peut dire que GAFA, c'est-à-dire Google, Apple, Facebook et Amazon, c'est-à-dire l'épicentre de la Silicon Valley, est aujourd'hui en train de devenir extrêmement puissant. Tout GAFA, c'est-à-dire ces quatre sociétés, vont à marche forcée sur l'intelligence artificielle. Il ne faut pas penser qu'il n'y a que Google qui s'intéresse à l'intelligence artificielle. Amazon aussi et Facebook aussi. Facebook a débauché certains des meilleurs spécialistes de l'intelligence artificielle. Donc, toute la Silicon Valley s'intéresse à l'intelligence artificielle. Et au-delà de l'intelligence artificielle, elles sont en train de s'étendre sur l'ensemble des NBIC, c'est-à-dire elles sont en train de rentrer dans les nanobiotechnologies. Ça a commencé par Google, bien sûr, avec sa filiale de lutte contre la mort, Calico, 23andMe, Google Genomics, etc. Sa lentille pour les diabétiques qui mesurent la glycémie des milliers et des milliers de fois. Mais aujourd'hui, Apple est aussi en train de rentrer dans la santé, notamment au travers des nouvelles plateformes qui HealthKit sur l'iPhone. Et donc c'est un mouvement général. Toute la Silicon Valley est partie de l'informatique et du web. Elle est allée vers les sciences du cerveau, la cognitique, l'intelligence artificielle, la robotique, et maintenant elle rentre dans les nanobiotechnologies. C'est tout à fait normal. Comme on le disait tout à l'heure, les NBIC, c'est un seul et même ensemble. C'est en fait une seule et même science. C'est la science du 21e siècle tout ensemble. Et il est normal que les leaders de l'économie mondiale, les sociétés qui sont en train de structurer le monde et l'économie mondiale au 21e siècle, soient les leaders dans l'ensemble des NBIC.
Est-ce que ça veut dire que la bataille entre les États et les entreprises devrait se traduire par maîtrise plus grande du politique sur les sciences du cerveau, ou est-ce qu'on peut abandonner ce secteur au marché comme c'est en train d'être le fait?
Alors, ce ne sont pas les États qui vont inventer les neurosciences de demain. Ce sont des sociétés comme Apple ou comme Google qui ont les moyens financiers et l'intelligence de faire ça. C'est pas le ministère du redressement productif qui va faire avancer les neurosciences. Donc, l'État doit encadrer ces techniques. Et quand Kurzweil propose de mettre des implants intracérébraux dans 20 ans, il faut peut-être challenger cette assertion et mettre certains garde-fous. En revanche, je n'imagine pas que la science évolue à l'incitation directe des États, car la science publique n'est pas capable d'aller à la vitesse d'un Google ou d'un Apple, et de toute façon n'en a pas les moyens et ne peut pas payer les chercheurs au niveau où sont payés les chercheurs dans ces sociétés-là. Quel institut de recherche publique est capable de payer les meilleurs chercheurs des millions de dollars comme Google les paye?
Parce que ce sont des entreprises en situation monopolistique, ce qui ne peut pas durer.
Ce qui pose un autre problème, c'est-à-dire que les sociétés de la Silicon Valley, GAFA, Google, Apple, Facebook et Amazon, ne devraient-ils pas un jour être démantelées en plus petites entités si elles réussissent sur toutes les branches où elles se sont investies aujourd'hui?
Alors Alexandre, où est-ce que vous imaginez que la société elle-même, en dehors des transhumanistes ou des chercheurs ou des gens comme vous qui réfléchissent à toutes ces évolutions, vont accepter ce qui va se passer?
Regardez ce qui s'est passé sur Internet. La vague technologique est arrivée. En 95, 99,5% des Français dans un sondage expliquaient qu'ils ne voudraient jamais de connexion Internet. Et puis tout le monde a Internet. Et puis les gens ne voulaient pas de smartphone, tout le monde a un smartphone. Les gens ne voulaient pas de réseaux sociaux, tout le monde a un réseau social. Le tsunami est passé, tout le monde a accepté toute la proposition de valeur des gens de la Silicon Valley. Prenez les biotechnologies. On ne voulait pas de la pilule, on a la pilule. On ne voulait pas des implants cochléaires, puis on a les implants cochléaires. On ne voulait pas des implants intra-rétiniens dans les rétinopathies. Les premières sont commercialisées, etc., etc. En réalité, la technologie arrive. Au début, on est un peu surpris. Et puis, on accepte le choc technologique. Et l'État régule a posteriori, à la marge. On le voit très bien sur Internet. L'État n'a pas vu arriver le tsunami du web. Et maintenant, il régule un tout petit peu. Google va un peu payer d'impôts. On encadre législativement et au travers de l'action réglementaire de la CNIL un certain nombre d'abus des géants du web. Mais globalement, on a accepté le choc technologique et on ne l'a pas dévié. Sur les biotechnologies et sur les neurosciences, on va faire pareil. Il est probable qu'on ne va pas dévier le choc technologique. C'est dommage. On pourrait être plus proactif. D'abord pour participer au festin économique, car il ne faut pas oublier que sur l'ensemble des NBIC, l'Europe et la France en particulier sont absents de la création de valeur et que les emplois sont créés ailleurs. C'est-à-dire, la destruction d'emplois schumpeteriennes, elle est chez nous et la construction d'emplois schumpeteriens, elle est dans la zone Asie-Pacifique, comme Jacques l'avait prédit, dès 1979-1980 dans les trois mondes. Donc on pourrait davantage créer de valeur chez nous si on était plus proactif. Et puis on pourrait organiser le choc technologique pour qu'il aille plus dans le sens de nos valeurs. Car le grand danger aujourd'hui, c'est que le choc technologique bouleverse nos valeurs et que nous ne puissions pas reconstruire nos valeurs après le passage du tsunami. Et c'est de mon point de vue le scénario le plus probable. Et l'inaction du politique, l'incapacité du politique à comprendre ces enjeux-là est quand même dramatique. Alors, nos deux derniers présidents de la République ont certes un smartphone, mais aucun des deux n'avait d'ordinateur sur son bureau. Nous sommes en 2014... La cinquième puissance économique a un chef de l'État qui n'a pas d'ordinateur sur son bureau. C'est un mauvais présage sur notre capacité à dévier le choc NBIC, à l'intégrer et à en profiter. Et de ce point de vue, je suis inquiet. Je pense qu'il serait intéressant de donner des cours d'informatique et de NBIC au président de la République. Comme vous l'avez fait avec François Mitterrand, puisque vous avez formé avec Daniel Cohen François Mitterrand à la génétique il y a maintenant 30 ans, Jacques.
En effet. Est-ce que ça veut dire que pour vous, les progrès de ces sciences doivent être laissés entièrement libres pour l'instant et on verra un peu plus tard ce qui arrive, ou est-ce qu'il faut dès à présent introduire des garde-fous ?
C'est une question difficile. Si on met des moratoires, si on bloque, par exemple en France, on va avoir un monopole de la Silicon Valley, de la Corée et puis de la côte est de la Chine pour trois siècles. Donc en réalité, il est très difficile de brider les maigres acteurs qui s'intéressent à ces sujets chez nous, parce que nous prenons le risque de prendre encore un peu plus de retard sur le plan technologique. Donc je pense que le principe de réalité va nous conduire à être plus libéral, entre guillemets, et à moins brider pour avoir quelques petites miettes du festin technologique. Et je ne crois pas qu'on va beaucoup encadrer, je pense qu'on va très peu encadrer.
Il y a des domaines qui sont dans des domaines différents, interdits, qui restent interdits. Je pense beaucoup de domaines dans la génomique de la naissance qui restent interdits par la loi dans beaucoup de pays. Est-ce que dans la génomique du cerveau, il y a des choses qu'il faudrait aujourd'hui, dès à présent, considérer à interdire ?
On pourrait l'interdire en France. Je ne suis pas sûr que les Chinois acceptent les interdictions qu'on y mettrait. Et vu l'état du budget de la défense française, je ne vois pas très bien le ministre de la Défense, M. Le Drian, aller bombarder Shanghai et les centres de neurogénétique de Beijing et de Shanghai. Je pense que ça se passerait très très mal. Donc il est clair que nos interdictions ne concerneront que nous, nos moratoires ne concerneront que nous, car nous n'avons plus la puissance économique, la puissance militaire, la puissance diplomatique.
Qu'est-ce que vont faire les centres chinois en question qui pourraient être interdits s'ils s'étaient faits en France ?
Je pense qu'ils vont faire des neuromanipulations à des fins eugénistes et à des fins de revanche technologique. Je pense que pour maintenir un taux de croissance élevé de la Chine, ils vont fabriquer de meilleurs ingénieurs dans les décennies qui viennent. Et les déclarations des responsables du BGI récentes dans Wired et dans le Wall Street Journal me font penser qu'ils iront très loin et qu'ils se serviront des technologies NBIC à des fins géopolitiques et géoéconomiques, et que nous allons être confrontés à un dilemme terrible, car cela va heurter nos valeurs et il n'est pas possible que nous soyons capables de ne pas les imiter si nous voulons éviter une marginalisation.
En attendant la fin de ces mondes, c'est la fin de cette émission. Merci Laurent Alexandre. Je rappelle les titres des deux essais que vous avez publiés, La mort de la mort et Google Démocratie, avec David Angevin, journaliste avec qui vous avez récemment écrit un roman, Adriane Humain 2.0. On peut également vous suivre à travers vos chroniques dans les pages Sciences et Techno du Monde ou du Huffington Post. C'était Le Sens des choses avec Jacques Attali et Stéphanie Bombicini, une émission qui est réalisée par Gilles Davidas avec aujourd'hui à la technique Benjamin Vignal. Je vous invite à vous rendre sur notre site internet franceculture.fr pour podcaster cette émission. Vous pourrez le faire durant un an ou la réécouter, ce qui est possible durant 1000 jours. À samedi prochain. En attendant, très belle fin d'après-midi sur France Culture.